galère au 88.4 dans l'émission Et si on s'écoutait. Nous sommes le 26 février 2025 et le podcast lui sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission, nous recevons aussi bien une personne qui par son chemin de vie explore sa relation à l'écoute ou un acteur de la société qui œuvre pour l'écoute et le bien vivre ensemble. L'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue, du lien en société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres, et comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde d'aujourd'hui. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée de Marion Milsan en studio.
Bonsoir. Salut.
Et de Sidi en régie. On est ravis d'accueillir ce soir le Garage Comedy Club avec Vera, la responsable com et stand-upeuse.
Oui, bonjour. Ça.
Et Fabien qui est le manager, le maître de cérémonie du garage.
C'est ça, merci, c'est ça. Salut, enchanté, salut. Merci de nous recevoir.
Bah ouais, on est ravis de vous recevoir. Alors le garage, vous allez nous en parler, c'est du stand-up et c'est aussi une grande aventure humaine. C'est un espace où les voix s'élèvent, où l'humour devient un outil social, un vecteur de lien et où chacun peut emporter son histoire, peut s'exprimer, partager, écouter, se rencontrer. Avant de nous partager vos parcours respectifs, est-ce que vous pouvez peut-être nous évoquer ce que ça veut dire pour vous, le titre de notre émission, Et si on s'écoutait ?
Je prends la balle et
prends
je te
l'envoie. Bien, tu veux
commencer. Ok, cool. Et si on s'écoutait, bon, mais pour nous, c'est trop cool d'être ici. Le stand-up, au final, c'est de fait une écoute. C'est des personnes qui racontent un propos très humoristique de fait. Soit c'est exagéré, soit c'est comparé, etc. Et en fait, c'est pour une audience, pour un public qui est là et qui est en position d'écoute. Alors après, cette écoute, elle est souvent mise à rude épreuve hein, parce qu'il y a une question de rythme, etc. Peut-être qu'on va rentrer un peu dans la technique un petit peu de notre pratique artistique, mais l'écoute, oui, c'est au centre. Et en plus de ça, là, si on va un peu en coulisses, nous avec Vera, on travaille ensemble, je te donne la parole maintenant, on est beaucoup dans l'écoute avec l'équipe. On est une équipe aujourd'hui qui grossit parce qu'on a beaucoup de chance, notre comedy club marche bien, donc on est beaucoup à l'écoute de l'autre pour avancer dans le projet. Qu'est-ce que tu en penses, Vera?
Oui, bah oui, l'humour, c'est s'écouter soi d'abord pour trouver et puiser son inspiration pour ses sujets. C'est écouter la société aussi, je pense, pour être acerbe et un peu vif sur ce qui se passe autour de nous. Et effectivement, c'est une écoute aussi avec le public. On a l'impression qu'on est seul et c'est une discipline un peu solitaire, mais en réalité, on est toujours avec le public. Et du coup, c'est important d'écouter le public. Et oui, c'est vrai que dans l'équipe, on essaye de s'écouter. On fait beaucoup de bruit, donc on est obligé de s'écouter. Mais oui, c'est une belle aventure familiale. Et du coup, on est obligé de s'écouter et d'avancer ensemble.
Vous êtes combien dans votre équipe?
Comment on est aujourd'hui? On est Quentin, Jude, 1, 2, 3, 4, on est 6, ça fait que grossir. On est très ouvert aussi aux bénévolats, aux forces vives qui viennent grossir. C'est comme ça que nous, on est rentrés dans l'équipe. Au final, c'était surtout Quentin Friburger, le fondateur, qui était là. Et puis voilà, ça s'est grossi au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on est une belle douzaine en forces vives, plus les élèves, ils sont aujourd'hui 80, qui font partie de la famille aussi. Les autres stand-upers professionnels. On est aujourd'hui dans le garage, si on devait rassembler tout le monde. Peut-être une centaine de sympathisants, en tout cas qui font bouger la scène stand-up à Marseille.
Une belle équipe.
Une belle équipe.
Pour partir en vacances, ça doit être bien sympa.
Ah, c'est un projet d'ailleurs.
On part à Bali, là, tous ensemble, au mois d'août. On va réussir à survivre. Ouais, voilà.
Et avant de parler un peu de vos parcours, est-ce que vous pouvez nous présenter le Garage Comedy Club pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas comment vous avez envie de le présenter?
Eh bien écoutez, le Garage Comedy Club, c'est un lieu culturel qui a ouvert il y a 3 ans. Avant ça, c'est une aventure qui a démarré avec 2 amis qui ont décidé de promouvoir le stand-up à Marseille en créant une scène au Chapiteau, à la Belle de Mai. Ils faisaient régulièrement des scènes de stand-up là-bas. Et puis, ils ont décidé d'ouvrir un lieu en 2020. Alors, bien sûr, il y a eu toute l'époque Covid, donc un peu compliqué, mais ça a ouvert, on va dire, en 2021. Et du coup, voilà, c'est un lieu, c'est un comedy club, donc un peu comme à la Jamel Comedy Club, où il y a des humoristes qui se succèdent pendant une heure et quart sur scène. Et puis, il y a aussi des seuls en scène, des spectacles. Et aujourd'hui, c'est une académie, c'est un lieu de vie. Notre but, c'est d'en faire effectivement un comedy club, mais je pense que le projet, avant tout, c'est d'en faire un lieu culturel et vivant sur Marseille. et qui arrive à promouvoir l'art vivant dans toutes ses formes, en tout cas.
C'est ça. Et puis, du coup, nous, en ce moment, c'est très important pour nous que, de mettre aussi le paquet sur tous ces projets alternatifs que, finalement, simplement le stand-up. On adore le stand-up et cette organisation. Voilà, les humoristes qui se succèdent, on fait des super blagues et on passe une bonne soirée. Mais là, du coup, déjà, avec les 5 ans, peut-être aussi, on aura l'occasion d'en parler. On propose 4 nouveaux concepts, voilà, un peu inspirés d'outre-Atlantique et même certains qu'on a inventés. Et puis aussi, on fait beaucoup de choses pour nos amis marseillais, les habitants. On fait des projets pour les jeunes, pour les moins jeunes. On essaye de sensibiliser par le biais du stand-up et de la prise de parole. Voilà un peu l'expression de soi et que chacun puisse se réaliser à l'intérieur de ce garage comedy club. Ouais.
Oui, il y a une volonté d'être un acteur culturel, mais aussi social.
Social, exactement. Il y a vraiment une dimension sociale, je pense, dans ce projet qui est de plus en plus, qui prend de plus en plus forme et qu'on veut aussi développer, quoi.
Bien sûr. À titre d'exemple, peut-être, l'année dernière, on s'est régalé. C'était vraiment le projet phare qui nous a fait développer un petit peu ça. On a accompagné pendant 8 semaines une classe de 4e SECPA du collège Darius Milhaud. Le projet, c'était première scène. En fait, on les a accompagnés de 0% de connaissances de stand-up et d'écriture, comme on peut imaginer une classe de 4e SECPA, à passer sur scène devant 90 personnes, les parents, les larmes, les fous rires, etc. Donc tout ça jalonné de haut et de bas. On a écrit avec eux leurs premiers 5 minutes. Il y a bientôt un documentaire qui va sortir. D'ailleurs, vous serez invités. On va faire ça en plein dans un grand cinéma, etc. Et voilà, c'est ce type de projet qu'on aime bien accompagner. Là, on va travailler avec la structure de l'EPIDE dans le 15e. L'EPIDE, c'est un centre de réinsertion pour des jeunes qui ont rencontré des difficultés. Et donc, du coup, on va proposer du stand-up dans ce sens. On va travailler avec certains collèges, certains lycées l'année prochaine.
J'ai vu donner des cours de prise de parole à des collégiens durant le Grand Bain. Je crois que c'est organisé avec la French Tech.
Oui, c'est ça, ouais, bien sûr.
Programme de mixité scolaire entre les jeunes de quartier sud et nord.
C'est exactement ça. Alors, c'est des enfants de primaire.
Okay.
Mais c'est des grands, c'est des CM1, CM2, donc ils seront bientôt au collège. Et c'est ça, avec une prof de stand-up qui s'appelle Sandra Miso, qui est aussi stand-upeuse de renom, super spectacle.
La Dolce Vita.
On recommande franchement. Et donc on participe à ce projet-là. Donc on fait des ateliers de stand-up une fois par mois pour ces groupes de jeunes. Un groupe de jeunes qui habite plutôt dans le quartier de Vauban, un groupe de jeunes qui habite plutôt dans le quartier de Saint-Antoine, à construire un stand-up. Et puis on va faire un spectacle au mois de juin devant les familles et les partenaires. Ouais, ça va être cool.
Ouais, pour nous, le stand-up, c'est finalement un outil aujourd'hui qu'il faut utiliser pour la prise de parole, le développement de soi, la rencontre aussi. Et c'est vrai que ce genre de projet, ça nous tient à cœur, quoi. On a envie d'en faire encore et encore.
Ouais, grave.
Je me demandais justement comment on arrive dans le stand-up. Quels sont vos parcours? Comment vous êtes arrivé dans le stand-up? On peut commencer par vous. Et puis après, globalement, plus la place... l'importance qu'a l'humour dans la vie en règle générale, mais comment vous êtes arrivé là-dedans?
Tu veux que je fasse?
Ouais, vas-y, t'es le plus vieux d'entre nous dans le stand-up.
Je suis le plus vieux d'entre vous dans le stand-up, exactement. Merci beaucoup, Vera.
Non, mais cordialement.
Il n'y a pas de problème ensemble. Comment je suis arrivé dans le stand-up? C'était. Bon, je crois que personnellement, c'est une passion déjà depuis que je suis petit. Gad Elmaleh, Ricky Ramsey, Jamel Debbouze, ça m'a bercé toute mon enfance. Je regardais très peu de dessins animés, beaucoup d'humour, quoi. Donc, j'étais sensibilisé un peu à ça. Et puis, c'est aussi l'occasion, je pense, qui fait le stand-up. C'est cool.
Le larron.
C'est une pratique, merci beaucoup, ça c'est le genre de blague de Vera et on adore. Merci
beaucoup.
On adore.
Je vais pas laisser passer.
Il faudrait pas la rater, celle-là je vais l'écrire sur le côté de la table. Et donc en fait, c'est aussi l'occasion qui fait le stand-up. Ce qui est cool avec cette pratique, c'est que finalement, c'est ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir une formation ou de savoir. Tu vois, on vient et à partir du moment où on a envie, 2-3 skills, 2-3 ateliers où on te cadre un peu, tu peux faire du stand-up.
Ouais, c'est une discipline qui vient du peuple, hein, et qui demande peu de moyens. En fait, c'est un moyen d'expression qui vient de mecs dans des bars qui ont voulu, ou de femmes qui ont voulu raconter une histoire. En fait, c'est important de repartir de la base aussi.
Grave, exactement. Et moi, pour l'anecdote, j'ai choisi de faire le discours d'un mariage de mon meilleur ami en septembre 2021. J'écris ce discours de mariage devant 250 personnes de façon acharnée pendant 4 mois parce que je me sentais pas de bider, comme on peut l'appeler dans le stand-up, tu vois. Bidé, ça veut dire pas faire rire, que ça marche pas, on connaît, hein, les discours de mariage, des fois c'est cool mais des fois c'est long. et du coup j'ai écrit ça, je suis monté sur cette mini scène le jour du mariage et j'ai eu standing ovation de 250 personnes, applaudissements, et puis tout le monde m'a dit il faut que tu fasses de la scène. Je suis arrivé au garage quelques semaines après comme ça, quoi. Et toi, c'est comment que tu as fait du stand-up?
Ah bah écoutez, moi je suis d'abord allée au garage en tant que spectatrice. Et en fait, c'est un ami à moi qui m'a inscrit un peu en loose dès quand ils ont annoncé qu'ils donnaient des cours. Pareil, hein, même parcours que Fabien. En fait, moi j'ai toujours été bercée par l'humour. J'ai toujours essayé de... Enfin, quand on est catégorisé comme le pitre dans ses groupes d'amis, on se dit toujours que peut-être à un moment donné, on a envie d'essayer de faire rire le plus grand public. Et tout le défi est là, bien entendu.
Tu es toujours catégorisé comme le pitre, je te l'ai dit, encore aujourd'hui.
Non mais oui, du coup, en fait, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de faire autre chose. J'avais fait un peu de théâtre. Je me suis dit, bon, le théâtre, c'était pas fait pour moi. Peut-être que le stand-up, je peux essayer. Et je suis arrivée là-dedans comme une discipline un peu lambda. Et la première scène a tout changé. Je me suis dit, bon.
C'est ta vie maintenant.
J'ai été piquée. J'ai été piquée direct. Voilà.
La première scène, c'est-à-dire
première scène au
quand
garage.
Toi, quand
moi,
passée,
je suis montée. Du coup, novembre 2022.
Toi, c'était novembre 2022. Mmh. Ok. Moi, la première scène, elle était en décembre 2021. Ouais, c'est ça.
Mais je crois que je t'ai vue.
Ah, peut-être. Hein.
Enfin, je suis sûre, mais je sais pas si c'était ta première scène.
C'était nul, voilà.
Non, parce que c'était. Enfin, tu le disais que c'était un peu les débuts.
Ah, ok, peut-être. Ok.
C'était à la place des canailles.
Ouf. Ça passe des canailles. Ah oui, une scène en plus plutôt difficile.
Ouais. Mais qu'on recommande.
J'ai ri.
Mais qu'on recommande bien sûr. La place des canailles, c'est super. Ouais. Notre ami Laurent Felbé qui anime ce comedy club tous les lundis. C'est très cool parce que finalement, c'est le seul plateau les lundis.
Oui, il donne sa chance à beaucoup d'artistes. Ça fait très plaisir aussi. Quelqu'un qui est aussi expérimenté, qui monte un plateau, qui tient un plateau et qui est capable d'offrir la chance à des artistes beaucoup moins avancés que lui de jouer. Franchement,
c'est un grand. Le stand-up de ce que tu dis, Vera, ça me fait rebondir. C'est un grand collectif d'humains qui se rencontrent aussi hyper différents. Et c'est ça aussi qui, moi, personnellement, m'attire dans ce.
Il y a plein de choses qui vous rassemblent, mais il y a vos singularités.
C'est ça. Je ne sais pas si dans le théâtre, où c'est un peu plus cadré, peut-être avec les troupes et tout, où c'est très ouvert, on rencontre. Alors après, il y a des groupes forcément, mais c'est très ouvert. Des fois, on sort, on est 10, 12, 14, on rencontre que des gens différents. En plus, c'est ça le stand-up aussi qui est cool. Si tu viens au Garage Comedy Club et que tu regardes déjà notre académie d'humour ou alors même une scène, chaque personne est différente de par son milieu, etc. Une histoire différente, c'est trop cool. On rencontre plein de gens différents, ça fait des complémentarités, on adore.
Ouais. Et donc toi, Fabien, t'es aujourd'hui manager et MC, donc MC, si tu peux présenter ça aussi pour le public qui a peut-être pas l'habitude, l'importance aussi de
très important le MC
de ton rôle.
Ouais je crois. Le MC, c'est le maître de cérémonie, c'est celui qui va animer la soirée, qui va démarrer la soirée déjà. Donc qui va mettre un peu le tempo de ce qui va se passer pendant tout le plateau. Donc on fait, on met l'ambiance, on met des règles, on vanne un peu aussi, hein. On est des vanneurs un peu. Mais nous tranquille, au garage, c'est tout doux, tu vois, avec les gens, on est piquant, mais ça va, tu vois. Et après, dans le respect bien sûr, beaucoup. On passe entre les artistes pour soit présenter le palmarès de l'artiste ou soit valoriser ce qui se passe, peut-être rebondir sur une blague ou deux que l'artiste a fait. Et puis à la fin, on rappelle tous les artistes sur scène, on fait la promotion des stand-uppers et des stand-uppers qui sont passés. Et puis tout ça, voilà, c'est animé. C'est un peu le MC qui gère un peu la soirée, c'est ça, Vera?
Ouais, moi je trouve que c'est important le rôle du MC, c'est lui qui donne vraiment le ton de la soirée en fait. Nous au garage, on a vraiment à cœur que les MC, en fait Fabien, c'est super parce qu'il s'est vraiment, on va dire, spécialisé dans cette forme aussi de stand-up. Et c'est rare, c'est pas de partout. Il y en a qui sont stand-uppers et du coup qui font MC. Mais moi je trouve que c'est vraiment un travail presque à part entière. Et on a de la chance d'avoir Fabien au garage. C'est pas le cas de partout, notamment quand on va dans d'autres villes, pour pas citer la capitale, où le travail de MC est totalement différent.
Ouais,
et c'est vrai
jeté.
Que ça conditionne vraiment. La soirée n'a rien à voir, quoi. On arrive dans des conditions des fois du coup plus difficiles. Donc nous, on est très content d'avoir Fabien qui nous chauffe le public, qui met un climat de confiance aussi où les gens sont en mode ah bah là on va passer une bonne soirée, ça se sent. Et c'est hyper important.
Ouais, c'est ça, j'aime bien mettre l'ambiance et puis j'ai moins de pression. J'ai essayé le stand-up de façon écrite. Tu m'as déjà vu jouer, merci. Tu fais partie
une des rares
peut-être 10-15. Ouais, parce qu'au bout d'un an et demi je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Pour plein de raisons. Déjà, le cadre de ce stand-up, monter 5 minutes et tout, c'était trop cadré pour moi qui suis un peu décadré, quoi, j'ai l'impression. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une très mauvaise gestion des bides, ce qu'on appelle.
Et du stress,
en fait. Ouais, j'étais stressé au bout
qu'est-ce
de
même. Fous la pression.
même au bout d'un an et demi, alors que j'avais écrit un texte qui fonctionnait, entre guillemets. Il y avait des punchs et tout. Mais j'avais tout le temps la pression, même quand je montais au garage. À un moment donné, j'ai dit, hey, stop. Un jour, ce qui m'a fait vriller, c'est que je suis monté avec du nouveau texte, j'ai bidé, c'est-à-dire que ça arrive, hein. Bidé, ça veut dire que j'ai travaillé, quoi. J'ai fait un essai comme une rature sur quand on écrit, quoi. Sauf que là, il faut le tester devant un public. Et le public n'a pas du tout rigolé à ce que j'ai dit. Je suis rentré chez moi, j'ai même pas pris mon chapeau, j'ai baissé la tête. Personne m'a vu pendant 3 jours. Alors qu'il y en a certains qui disent non, mais ça va,
oui, ça fait partie du travail. Ouais.
Mais moi, je suis tellement empathique avec les gens que du coup, moi, je me suis vu bider. Moi, je suis dans les gens. Donc les gens, ils me regardaient comme ça. Je me dis attends, ils sont déplacés chez eux. Moi, ils sont déplacés chez eux. Ils ont payé le chapeau et tout. Ils ont payé à boire pour voir un petit chauffe tatoué en train de raconter n'importe quoi. Je rentre chez moi, je vais vous éviter ça, s'il vous plaît. Après,
qu'est-ce qui t'a fait remonter justement sur scène pour être MC?
Ben c'est que justement j'ai plus de liberté. Plus de liberté dans le sens où je peux être beaucoup interagir avec le public. Il y a pas en tant qu'MC, c'est ce qui me rassure un peu, cette injonction du rire aussi. Parce que c'est vrai que
bien sûr.
On pose un stand-up, je pense qu'on va arriver à passer outre. En tout cas, je sens qu'on peut y arriver. Parce que des grands artistes de renom comme Panayotis, même Roman, etc.
Ouais, mais c'est plus propice sur des formats longs. C'est vrai que le Comedy Club exige quand même une certaine rentabilité. Enfin, dans le rire, en tout cas, il y a une...
C'est vrai. C'est vrai, même si quand même, on est encore...
Mais
dans
ça bouge, ça bouge.
On est encore, même en spectacle, dans des formats un peu plus longs, dans cette course un peu à la vanne, tu vois. Et au rire, et ce qui est normal aussi, hein, les gens, ils ont payé pour se marrer.
Pour rire.
Mais je pense que ça va aller un peu avec beaucoup plus asseoir notre attitude, asseoir le propos, etc. On y arrive. Mais c'est tellement long. Le stand-up, c'est une aventure magnifique. Parce que c'est aussi extrêmement complexe. C'est ça qui est cool. C'est facile d'accès, très facile. Demain, je te mets le micro, tu vas pouvoir faire du stand-up. Mais avant d'arriver à une pratique fluide et de faire l'unanimité, c'est extrêmement long. Et c'est ça qui est cool parce que du coup, il y a plein de trucs à faire. Ah. Donc voilà. Et qu'est-ce qui m'a fait monter sur scène avec le MC? C'est cette liberté. Et puis moi, j'adore aussi mettre mes collègues en avant. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le garage Comedy Club. J'ai tout le temps le t-shirt. On dirait que je porte que ça.
Mais pour les auditeurs qui ne voient pas, tous les deux, vous avez le.
C'est vrai qu'on fait un peu chauffer le réseau là.
Mais on est très fiers de notre petite entreprise de collègues. On bosse en famille. Et voilà, c'est cool. On est très fiers de ça, de faire du stand-up, d'ouvrir aussi. De pousser un peu les murs à d'autres projets. On se bat pour la marque et bientôt la troupe du garage et bientôt plein de projets.
Et par rapport au process d'écriture qui nous intéresse aussi avec Marion, on dit qu'il faut à peu près 3 mois environ pour écrire 3 minutes de sketch. Vous allez me dire si c'est ça. Et un rire toutes les 15-20 secondes pour le valider. Donc c'est énorme. Ouais. Et donc en fait, on se rend compte que le stand-up, c'est vraiment un art exigeant qui nécessite un gros travail. Une vraie force de caractère. Quel est pour vous, enfin peut-être vous travaillez d'ailleurs chacun différemment, le process d'écriture? J'imagine il y a beaucoup d'observations, d'écoute. Est-ce que vous partez de vous? Est-ce que vous partez des autres? Enfin, comment ça se passe?
C'est trop intéressant parce qu'en fait j'ai l'impression qu'à chaque stand-upper ou à chaque stand-upeuse, sa méthode, sa façon d'écrire.
Peut-être toi, Vera, tu vas-y. Peux commencer.
Déjà sur le côté 3 mois pour 3 minutes de sketch, pareil, c'est propre à chacun. Je pense qu'il y en a qui arrivent à travailler. Bah là, nous, de toute façon, on a un format première scène où quasiment au bout d'un mois, les élèves sont prêts à monter avec 5 minutes sur scène. Donc hop, on est déjà en train de questionner ça. Et après, le rire toutes les 15 à 20 secondes, ça reste très prenant. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce côté un peu rentabilité, de productivité du rire. Moi, ma méthode de travail...
Elle change.
Moi, je fonctionne comme dans la vie, à la deadline et à la des trucs très spontanés. Il m'arrive beaucoup d'écrire juste avant de monter sur scène, avec une proposition de 5 minutes. Récemment, je suis montée sur scène juste avec une idée et j'ai fait de l'écriture intuitive, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que je suis montée sur scène et que j'ai écrit sur scène. Donc forcément, le côté un rire tous les 15-20 secondes, c'est pas possible.
C'est un parti pris.
C'est un parti pris, ouais. Mais du coup, ça... C'est dans ce truc de se décharger, se libérer aussi du rire. Je me suis dit, là, je sais que je monte sans blague écrite, donc je sais aussi à quoi m'attendre. Je frôle avec le bide, mais en même temps, je suis peut-être plus sincère dans ce que je vais raconter. Les gens vont peut-être plus adhérer à ce que je vais raconter. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Ils ont pari aux éclats, mais il n'y a pas cette sensation de bide parce que c'était tellement spontané qu'ils étaient au moins, OK, on t'écoute.
C'est ça.
Ils étaient dans l'écoute pour le coup.
C'est intéressant ce que tu dis.
Et après, oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent différemment. Il y a des différents types de stand-up. Donc, il y a ceux qui partent d'eux, qui s'écoutent eux. C'est généralement comme ça qu'on commence, en fait. On parle beaucoup de nous au début. Moi, j'aime bien l'observation. J'aime bien regarder autour et j'aime bien essayer de me rapprocher de ce que ça me fait à l'intérieur de moi. Donc, je m'écoute aussi en parallèle, mais je suis plus dans l'observation. J'aime bien regarder.
C'est ça. Et puis, moi, à l'époque, j'écrivais... J'arrive pas à écrire seul. Donc, c'était beaucoup de co-écriture. Moi, j'accompagne de temps en temps quelques collègues à co-écrire. Donc, j'aime bien aussi, aujourd'hui, me positionner comme ça. Je suis un peu co-auteur, quoi. Si on a besoin de moi, on peut écrire des blagues, soit qui vont monter sur scène, soit aussi des vidéos, parce que le stand-up maintenant c'est aussi une proposition artistique numérique avec les réseaux sociaux, etc. Sur les formats courts, c'est ça aussi qui fait vendre et puis c'est ça qui fait rire aussi en ce moment. Et voilà, donc moi je suis plutôt dans la co-écriture, dans l'échange. Voilà, un humoriste qui vient, il me présente son idée, on co-écrit ensemble. Des fois c'est pas bien, des fois c'est bien parce qu'il y a une connexion. Bon, en général, s'il y a le rire, ça ment pas, quoi. Donc c'est ça, il y a plusieurs façons d'écrire ça, qu'est-ce qu'il est.
Et puis juste si on est très technique sur la blague, en fait une blague c'est composé d'une prémisse, angle, punchline. Et des fois on a la punchline mais elle ne marche jamais parce qu'il suffit que l'angle ou la prémisse soit incohérent et du coup on n'arrive jamais à la mettre en valeur. Et ou inversement, des fois, on a l'angle, mais on n'a pas la blague. Et le fait de coécrire, ça permet d'avoir un autre point de vue dessus. Et ça, des fois, ça éclaire simplement le truc. Et après, ça fonctionne.
Ouais, il y a beaucoup de stand-upers à Marseille qui coécrivent au final.
Oui.
Ouais, c'est ça.
C'est pas institutionnalisé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de co-auteurs ou d'auteurs à proprement parler. Mais il y a quand même une belle solidarité où on peut coécrire, quoi. Ça, c'est cool.
Et moi, je me demandais justement, donc, il y a l'écoute, en effet, de l'autre et de l'observation, etc. L'écoute de soi. Et qu'est-ce qu'on fait du silence ? Justement, ces bides, là, quand ça arrive, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce qu'on les prend ? Est-ce qu'on assume ? Comment on fait pour se vivre à ça aussi ? Parce que tu vois ce que tu disais, que t'as mis pendant 3 jours, on t'a plus vu. Faut pas non plus être traumatisé et revenir sur scène le lendemain. Comment faire, quoi ?
Ben ouais, c'est ça. Alors le silence, comme on l'évoquait tout à l'heure, dans le stand-up, c'est extrêmement la frontière est fine entre l'assumer et que ça devienne soit ça fasse partie de ton jeu, ton attitude, ouais, et que ça soit même des fois un gag, ou alors que ça soit quelque chose de gênant. Ça dépend. Si tu l'institutionnalises, si tu le contrôles ton silence, ouais, si derrière tu as le rebond, ça peut faire partie vraiment d'un super moment. Je prends l'exemple d'un très bon collègue à nous qui commence à marcher sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Dudley. Vous allez pouvoir le suivre sur Instagram. Il est super et lui, en ce moment, il a une attitude de où il se pose et il part sur un propos, il accélère et puis pouf, il fait un silence. Tout ça, c'est une question de rythme, en fait, si tu veux bien parler de ça.
Le rythme est très important et il y a des stand-upers qui ont créé leur notoriété sur le silence. Je pense à Paul Mirabel, le rythme est très lent.
Oui, c'est clair.
Et pour autant, le silence n'est jamais gênant. Et il fait partie même, ce que tu disais, de la blague, du gag. Et je pense que je rejoins ce que tu dis sur le silence, comment il est vécu, en fait. C'est surtout ça qui va influencer. En fait, si le stand-upper est gêné de son propre silence ou du silence de la salle, tout de suite, il y a un truc d'énergie, ça sent. Et là, on frôle le bide. Alors que si le stand-upper, il est prêt à accueillir le silence et attendre avec presque le public en disant ouais, donc là on est dans le creux de la vague, et ben c'est ok, quoi.
C'est ça, donc j'écoutais une interview de Jamel Debbouze qui disait qui était avec Ramzy à ce moment-là et qui disait qu'aujourd'hui profiter des silences sur scène alors qu'au début c'était la course. Et peut-être que c'est un passage obligé, je ne me rappelle pas de stand-upers débutants qui kiffent les silences, quoi. Au contraire, on est plutôt dans un truc de courir après la blague. Alors c'est cool parce que ça fait des fois des moments super frénétiques et dynamiques, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, quand nous on a assis notre position de stand-upper, peut-être qu'on peut plus profiter des silences.
Mais justement, on vous prépare un peu dans les cours à se dire ok, ça va vous arriver, parce que bon, ça fait aussi un peu partie du processus. Est-ce qu'on vous donne des billes pour
C'est intéressant parce que je crois qu'on n'y est pas encore arrivé, quoi. On n'est pas encore arrivé à assumer, à poser. Là, on y arrive un peu au bout de 3 ans pour Dudley, 3 ans et demi de scène, à poser ses silences et en profiter. Mais c'est vrai que, ouais, on t'attend encore. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien parler.
Est-ce que tu faisais référence au silence même ou au bide ? Moi, j'ai plus entendu en mode est-ce qu'on vous prépare au bide ?
Ouais, oui, aussi, okay. Parce que ça va faire partie. Enfin, quand on prend des cours, pour pas justement
Bah, en fait, je pense qu'on. On nous prépare à l'éventualité du bide et à dédramatiser le bide. On en parle. Mais en fait, tant qu'on n'a pas vécu un bide, je pense que. on peut pas être préparé. En fait, on imagine le bide et des fois on dit ouais j'ai bidé parce qu'il y a pas eu trop de rire. Mais bidé c'est un sentiment encore différent où ce que disait Fabien tout à l'heure, oui on sent la gêne dans le public. Et là c'est le bide. Des fois on marche pas, c'est pas très drôle, c'est haha soufflement de nez. Mais le bide c'est il y a une gêne qui s'installe et on se dit là j'ai envie de me tailler chez moi, de me cacher quoi. Donc ça, on n'est jamais préparé. Et quand ça arrive, on n'est souvent même pas préparé parce que ça arrive des fois à des moments où on est sûr de nous. Quoi. Enfin,
bien sûr.
Mais des fois, c'est ça qui est fou. Ouais,
c'est ça qui est fou.
Ça, c'est hyper déstabilisant. Ouais.
Ouais. Mais moi, je pense que moi, en tout cas, j'étais donc, on va dire, la deuxième ou troisième génération de cours.
C'était la deuxième.
Deuxième. Donc après Dudley, et Dudley était déjà un peu prof, un peu mentor. Et moi, mon bide, je l'ai vécu avec lui et grâce à lui. C'est lui qui m'a emmenée sur une scène à Nice. Et en fait, je pense qu'il croyait que j'étais prête. Puisque, voilà, un peu caution, quoi, garant, il m'a emmenée. Et j'ai bidé, mais
fort
violent. Top bide. Premier. Top bide encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai bidé depuis, mais ouais, celui-là il était vraiment hard. Et lui, il était en mode ah bah, je suis désolée, je pensais que c'était le moment quoi. Et en fait, c'était pas le moment. On sait jamais quoi.
On sait jamais en fait. Je sais même pas si c'est jamais le moment. Faut toujours se réinventer.
Ouais, mais
je
pense bien. Le stand-up, c'est magnifique. C'est hyper utile le bide.
Aujourd'hui, même Gad Elmaleh, il co-écrit son dernier spectacle avec Roman Frécinet, donc avec la fraîcheur du stand-up un peu moderne. Mm-hmm. Il faut toujours se réinventer parce que l'humour change, la société change. C'est ça qui est cool hein, maintenant. Est-ce que avec l'amour que j'ai pour eux et le respect que j'ai pour eux, Eric et Ramzy avec leur sketch à l'ancienne, ça ferait rire aujourd'hui ?
Non, peut-être pas. Mais par rapport à l'écoute, du coup, je refais juste un lien. Quand on bide, là, c'est vraiment, je trouve, le moment où on est plus à l'écoute du public, du coup, parce que ça se sent de fou. Et en fait, ça nous oblige à re-rentrer dans une introspection et à s'écouter soi, en fait. Pourquoi
Un bon stand-upper, c'est là aussi qu'on le sent, dans ces moments-là, comment il va rebondir, comment il va réagir.
Ah ouais, c'est sûr. Ouais. Déjà, le stand-upper qui dit c'était la faute du public. Terminé, ça n'est pas prêt à se remettre en question. On se dit souvent en garage, en gros, on aime bien se vanner entre nous. Quand on voit quelqu'un qui bide, on le lâche pas en un mode, tu as bidé chaud. Et du coup, bon, on se moque un peu, mais c'est aussi pour se pousser à dire non, c'était pas de la faute du public, même si des fois, bien sûr, il y a des publics qui sont plus compliqués, mais plutôt à se dire ouais, non, mais là, va chercher pourquoi t'as bidé.
Exactement.
Sur quoi il faut que tu travailles. Et peut-être qu'en fait t'as juste bidé parce que ton texte tu l'incarnes plus. Donc alors
ton texte tu l'incarnes, tu étais fatigué,
tu te réécoutes et tu te réincarnes.
Tu étais fatigué. Des fois la première phrase, ce qu'on appelle l'opener en stand-up, la première phrase elle peut te faire partir vraiment sur la voie de l'applaudissement ou pas du tout, tu vois. Et donc des fois il y a un truc qui se passe dans le public, tu arrives et tu déconnes, pac, ça peut te mettre les pieds dans le tapis. Et c'est ça, donc
tout se joue dans les 30 premières secondes.
Exactement. Et aussi ça, beaucoup dans comment tu, en tout cas pour moi, comment tu te sens à ce moment-là pour jouer sur scène ou pas.
Non, je suis 100% d'accord avec ça. J'ai un vrai problème qui est que, à l'inverse du théâtre où on incarne un personnage et on peut se distancier et du coup incarner quelque chose d'autre et passer des émotions, quand on fait du stand-up, il faut être connecté un maximum à soi. Et moi j'avoue que j'ai encore du mal à rentrer dans cette espèce de truc état second où peu importe mon état dans la vie de tous les jours, ce que je vais produire sur scène sera carré, marrant et tout. En gros, si ma journée était pourrie ou que je suis pas dans le truc, je me sens pas bien,
ça va se ressentir.
Je sais que ma scène elle sera forcément moins bien, sans dire qu'elle sera nulle, mais c'est
surtout qu'en plus
compliqué.
On est seul, parce que moi j'ai fait beaucoup d'impro théâtrale.
Okay.
Et il y a eu des journées évidemment, enfin j'avais une troupe et tout ça, et évidemment il y avait des parfois où voilà, j'avais pas le moral, mais quand t'es pas seul sur scène à faire de l'impro, t'as l'énergie de l'autre. Et donc incarner des émotions est beaucoup plus facile parce que en fait t'en reçois aussi à ce moment-là et puis en fait tu t'oublies un peu. Et je pense qu'en effet ce qui est un peu plus compliqué c'est que t'es vraiment mise à nu quand t'es sur scène seule et en effet que t'es face déjà à tes émotions qui peut-être sont pas forcément les meilleures du moment et face à ce public qui attend de toi aussi un truc
beaucoup,
qui peut mettre la pression quoi. Tu vois,
c'est pour ça que je trouve depuis j'adore le stand-up, je vis stand-up, j'écoute que des podcasts et des interviews de tout le monde. Et Kian Kojandi, vous connaissez peut-être Kian Kojandi, le producteur de Bref, il a sorti
Bref
de la frappe atomique, c'est vraiment la folie. Et il disait dans un de ses podcasts que il avait anticipé que il allait avoir le retour des personnages un peu vraiment le stand-up un petit peu voilà, c'est ça, très déstructuré avec beaucoup de voix, retour des personnages sur scène. que ça allait refaire évoluer le stand-up dans le bon sens. Et parce que le stand-up, finalement, ancré soi-même, ça pouvait avoir fait son temps, quoi.
Ouais, c'est une certaine redondance aussi dans les récits, dans les thématiques aussi abordées. Je pense qu'aujourd'hui, on en a marre d'entendre Tinder, quoi.
Oui, Tinder et comment ça se passe dans le métro.
On caricature, mais c'est un peu c'est ça. C'est dur d'être innovant sur des sujets.
C'est extrêmement dur d'être innovant. Et du coup, les personnages, ça nous offre un terrain de jeu.
Un champ des possibles.
Importante. Je vais la citer parce que c'est aujourd'hui officiellement ma stand-upeuse préférée de France. Sûr. Elle s'appelle Gabrielle Giraud. C'est une Marseillaise.
On recommande,
vous l'avez vu.
Son spectacle au naturel à l'ardu.
Il faut y aller vite avant que ça coûte 50€ la place. Et elle fait beaucoup de personnages. Elle incarne chaque blague est un act-out. L'act-out, ça veut dire que c'est, tu sors de ton récit et tu fais un personnage. Et c'est super parce qu'elle nous amène. Et puis ça, il faut qu'on travaille encore plus. Nous, la sortie en act-out, parce que quand on voit des grands stand-upers que j'adore, des Farid, etc., c'est beaucoup de personnages et ça aide à porter le propos. Ouais.
Et aujourd'hui, on parle pas mal de stand-upers ou stand-upeuses engagés. Mmh. Est-ce que vous, en tant qu'humoriste, vous avez des messages que vous voulez transmettre au public est-ce que vous avez envie de porter la voix pour certains combats? Est-ce que c'est votre engagement pour certaines?
Je me regarde en rigolant.
Je crois que tu aimerais bien creuser un peu cette voie-là.
Oui,
je sais. Aimerait bien que tu pousses encore, parce que c'est ton truc.
Ouais. Moi, en fait, le fait d'avoir un micro et la chance de pouvoir parler devant autant de gens, forcément, il y a un truc en moi qui m'anime et qui me dit que ce que je raconte doit forcément être un minimum engagé. Enfin, j'ai l'impression qu'on a une responsabilité quand même. Alors, je sais qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus.
C'est
super. Mais moi, je ressens ça. Et du coup, j'essaye d'avoir des propos un petit peu engagés, un peu politisés même. C'est pas la voie la plus simple du stand-up. Parce que les gens viennent se détendre, ils n'ont pas envie qu'on les ramène à une réalité parfois un peu dure. Et c'est très dur d'utiliser la blague pour distancier ça et se moquer de ça.
C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, surtout au garage comédie, quoique on est quand même...
C'est pas l'endroit le plus...
Ouais. Comment ?
C'est pas l'endroit où c'est le plus simple.
C'est vrai.
On a un public quand même assez politisé, mais c'est pas...
Toujours à Marseille, quand même. C'est une ville qui est engagée sur certaines choses.
Ça dépend des spots. Il y a certains spots, tu vas jouer dans le 7e, par exemple, dans certains plateaux, c'est chelou. Les gens, ils viennent vraiment pas du tout pour du positionnement, etc. Ça te met tout de suite un coup de recul.
Ouais. Nous, au garage, il y a des mots qui font peur. Il y a des mots, c'est tac.
Ouais.
Parce que moi, je me posais la question, tu viens au Garage Comedy Club pour te divertir, mais ça veut dire quoi, divertir? Ça veut dire quoi? Tu peux rigoler de tout aussi, c'est une question. Qu'est-ce que tu viens écouter?
Ça, c'est des vrais sujets.
Il faudrait une autre émission carrément.
grave. Moi, je referme la parenthèse du sujet d'avant. Après, il y a des plateaux thématisés aussi, de plus en plus. Si tu veux profiter d'un plateau engagé, déjà avec une couleur, etc., il y a plein de trucs. Il y a le Boom, par exemple.
Le Boom avec Move On Up, il y a le Pip My Life.
Pip My Life aussi. C'est des collectifs engagés qui sont. Sont super.
Du coup, c'est vraiment super que ça existe, ces espaces. Moi, je suis hyper soutenante avec ces collectifs-là. Mais c'est vrai que quand on fait de l'humour engagé, c'est dommage de pouvoir faire ces sets-là que sur ces plateaux-là. Parce qu'on sait que la résonance, ça va être positive. Moi, quand je joue dans des plateaux 100% meufs ou queer, je sais que mes propos, instantanément, ils vont être compris. Et je ne m'adresse pas pour mes pairs, en fait. Et la volonté de l'engagement, elle est plus large.
C'est très intéressant.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi.
Et parce qu'à la fois, on espère, en tout cas, Vera, quand on aura la boîte de prod et que tu feras partie de la team, que tu vas aller, je crois, aussi attraper ton public, c'est-à-dire les gens qui vont venir pour toi, pour ton propos, pour ton perso. Moi, je suis bien entre les deux. Moi, j'aime bien... j'aime bien faire bordel. On y va pour faire bordel, pour crier, pour s'amuser, pour être ensemble, pour se connecter. Et puis après, si jamais on peut amener du sens, c'est trop bien.
C'est deux entrées différentes.
Est-ce
qu'on met le sens d'abord et on utilise le stand-up comme un outil, ou est-ce qu'on fait du stand-up et du coup on glisse des choses?
Oui, est-ce qu'on est obligé de choisir? Ça peut être aussi un peu des deux.
Ça peut être beaucoup
des
deux.
Moi, je pense que c'est les deux. Et c'est quand il y a la réunion des deux qui marche. Que ça fonctionne. Hein, sur le terrissé, par exemple.
Vous disiez de se renouveler tout le temps en fonction aussi de la société qui change. J'imagine qu'en fonction de ce qui t'arrive aussi dans ta vie, tu te renouvelles aussi. Tu parles de plus ou moins certains sujets qui t'importent. Mais je me demandais, le ratio homme-femme quand même est quand même...
On dit 6 hommes pour une seule femme.
Tout à fait.
Est-ce que c'est,
c'est vrai.
Ouais.
C'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai, à notre désarroi, je crois, hein, mais c'est plutôt vrai. Vas-y, dis-moi.
Oui, on a des positions différentes. Mais allez, peut-être une femme pour 5 hommes maintenant. Enfin, c'est, on va dire.
Ouais, en tout cas, nous, au garage, c'est très important pour nous d'avoir au moins une fille, voire deux sur les plateaux.
Ouais, ouais.
C'est sûr que ça n'arrive pas. Il n'y a pas de plateau 100%.
Mais c'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'avec Marion, on voulait un binôme. Mixte quoi, pour ce soir, okay. pour représenter le garage.
Ouais,
donc ça, c'est important, ouais.
Non, c'est vrai que ça manque encore un peu de visibilité au niveau des stand-upeuses. Nous, on a un plateau 100% féminin, du coup, que je co-anime et co-ordonne avec Gabriel Giraud. Mais notre but, c'est que ce plateau disparaisse le plus vite possible.
Si c'est trop intéressant. Et moi, j'adore me déconstruire et du coup avoir aussi l'avis de mes confrères femmes par rapport à ça.
Consoeur.
Tu as vu déjà consoeur. Merci. Et par exemple, on a dans l'équipe du garage Vera. Il y a Vera et Sandra. Avec deux filles pour peut-être 8 gars. Moi, j'aimerais trop qu'il y ait d'autres filles qui s'impliquent avec nous, qui veulent bosser avec nous, taffer le projet, donner de la force. Mais ça veut dire que, attention, Vera.
Mais il faut être prêt à.
Vera, elle retrousse les manches, porter les bancs.
Mais ce que ça
créer,
veut dire quoi,
organiser.
Du coup, c'est que les femmes se donnent moins la légitimité pour venir sur scène. Ça veut dire quoi, notre société aussi?
Ouais, c'est ça. Moi, je pense que la vraie question, elle est là. C'est, je pense pas qu'il y a pas de moins de femmes.
Parce que les femmes font rigoler. Elles font pas.
Et puis les femmes font.
On est drôle.
Okay. Ouais, mais c'est
drôle,
encore
mesdames.
Malheureusement.
C'est très drôle.
C'est encore malheureusement. C'est pas si évident pour tout le monde. Et il y a beaucoup de femmes qui font du stand-up à Marseille, il y en a de plus en plus et c'est trop bien. Il y a Stand Up Girls aussi, je mentionne un peu tout le monde parce que c'est important, qui est menée par Ori Stand Up, qui crée beaucoup de plateaux 100% meufs et qui crée des réseaux surtout entre stand-upeuses. Et problème de légitimité des femmes à se mettre en avant, à demander des places sur des plateaux. Et ensuite, quand on est invité sur des plateaux, convié sur des plateaux, toujours un problème de niveau. Effectivement, les femmes font du stand-up, mais comme elles jouent moins, elles progressent moins vite.
Oui.
Et de nouveau, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'effectivement, oui, il y a peut-être moins de filles, moins de femmes au niveau attendu sur des grosses soirées payantes, etc. Et donc oui, le vivier est peut-être un peu moins important. Ça, c'est une réalité, je peux pas dire l'inverse. Parce que même moi, maintenant qui programme un plateau 100% meuf, forcément, il y a des attentes au niveau du public. Donc, c'est difficile de dire non. Mais en même temps, si on s'ouvrait un peu à l'humour féminin, même si j'aime pas du tout dire ce terme, mais qu'on ouvrait son esprit en disant les femmes sont drôles, je pense qu'elles joueraient plus, elles auraient un meilleur niveau plus vite. Et du coup, en fait, il y aurait plus de meufs. Mais ça, c'est un parti pris qui n'est pas toujours le cas de programmateurs. Au garage, on donne la chance, du coup, avec ce plateau 100% meuf.
Il y a les mécanes, on est trop
fiers. Et ça glisse
trop
sur les autres plateaux. Du garage, le contrôle des pics,
on est
plein
fier,
donc ça fait plaisir.
Mais oui, bien sûr.
Mais cette dynamique, elle n'est pas de partout.
Dès qu'on a la proposition d'une stand-upeuse qui veut faire son spectacle, si le spectacle est rodé, en général, les Marseillais, on les connaît. Donc, les Marseillaises, on les connaît. Donc, si c'est un spectacle de nos collègues parisiens, lyonnais et tout, c'est une priorité pour nous de faire jouer.
Oui, il y avait Nadège Sandège, Sans Gêne, Alicia Cetou qui ont fait leur spectacle au garage.
Ouais.
C'est super.
C'est ça. Moi, mon point de vue, c'est que je rêve de vocation dans la prod, en plus, dans la production de mes consoeurs femmes, de venir dans la production, vraiment comme toi, Vera, comme ça on monte ensemble.
Mais qui sont prêtes à travailler avec des hommes et un système régi par des hommes.
Ah ouais?
Où il faut être solide.
Toi, tu es extrêmement solide. C'est ça, ok.
Mais c'est à l'image du reste de la société, hein. C'est pas exempt des autres règles, mais.
Ouais.
C'est vrai que de manière générale, ouais, le stand-up est connu un peu pour être de base un peu masculin, mais on voit quand même que ça se démocratise et que ça s'ouvre aux femmes, et ça, c'est quand même bien.
Mais oui, c'est super. Et ça va continuer, j'espère.
En fait, c'est ça. C'est que...
Avec les réseaux sociaux aussi.
Ouais.
On en parlait tout à l'heure, mais il y a beaucoup de femmes qui vont rire sur les réseaux sociaux. Je sais pas si... Je trouve que sur les réseaux, ce truc-là, il est moins marqué.
Ah ben sur les réseaux c'est
beaucoup moins marqué.
Beaucoup de têtes, c'est beaucoup
de têtes,
plus
on a
filles
plus
qui vont se marrer.
Ouais.
Dans les personnages.
Ouais, notamment les caractères, Anaïs de Rosam, tout ça, elles ont vraiment. Laura Felpin, bon.
Ouais, ouais.
Tu sais quand tu disais les gens se déplacent pas, enfin les gens se viennent pour se détendre, et donc on n'a pas forcément envie d'aborder tel et tel sujet. Justement, je me disais que le numérique était un bon moyen pour en parler, parce que t'as pas envie de regarder cette vidéo, tu zappes. Mais du coup, c'est aussi bien, parce que si tu tombes sur cette vidéo et que ça te plaît, et que en fait ça t'apprend quelque chose, ou juste que ça te titille, Ben, je trouve qu'en effet, c'est un bon moyen de pas forcément se déplacer pour aller voir un spectacle d'humour ou de stand-up, mais
ouais, d'entendre un message quand même.
D'entendre un message, ouais, ouais, quand même, à travers l'humour.
Moi, je pense que c'est le meilleur exemple pour ça, c'est Swann Périssé, qui a commencé avec des trucs, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais qui a commencé avec des choses très militantes sur YouTube, puis après sur Instagram, et qui aujourd'hui, grâce à ça, propose un spectacle d'humour hyper engagé avec totalement son public. Ah oui. Mais elle est jamais trop... elle a fait des comedy clubs, mais je pense qu'elle s'est quand même évité beaucoup de galères en comedy club pour atteindre directement son public. Aujourd'hui, elle remplit des salles très belles, hein,
bien sûr.
Avec son public et avec des messages super. Et ensuite, elle poste tout sur les réseaux sociaux. Et là aussi, elle retrouve son public qui se déplace pas forcément, mais tout de suite, il y a une résonance. Et c'est vrai que les réseaux, ça, c'est utile pour ça.
Ils ont quand même une communauté qui est hyper
tout
active.
À fait. Ouais. Mmh. Elle a trouvé sa communauté grâce au réseau et du coup elle remplit ses salles et ça s'alimente aussi à l'inverse. Hein,
mais... Et dans votre démarche à vous, alors donc toi t'es MC donc peut-être moins, mais en tant que stand-upeuse, tu... c'est quand même un domaine que t'investis ?
Les réseaux sociaux ?
Ouais.
Moi, à titre personnel, pas vraiment.
Ça démarre, mais vas-y, on va le faire ensemble. Si tu veux.
Mais en fait, pour moi, c'est vraiment un travail à part entière aussi, en plus des blagues, quoi. Et je m'inspire de ce qui a été fait par mes collègues, notamment Julien Vigne, qui, je trouve, a attendu le moment d'être assez mûr en termes de stand-up pour développer ses réseaux. Et aujourd'hui, ces réseaux qui ont, on va dire, pété, hein, parce qu'il a travaillé comme un acharné l'année dernière dessus, aujourd'hui, maintenant qu'il a une notoriété, il est capable de présenter un stand-up de qualité, un beau spectacle. Et du coup, les gens ne sont pas déçus et le bouche-à-oreille fonctionne. Mmh. Moi, je ne me verrais pas aujourd'hui investir énormément d'énergie sur les réseaux, au détriment de mon stand-up, parce que malheureusement, on ne peut pas tout faire. Enfin, en tout cas, c'est compliqué. Et arriver, par exemple, à une notoriété, ne pas avoir quelque chose derrière qui me satisfasse de présenter, quoi.
Pareil, les réseaux sociaux, c'est une vraie stratégie de travail, en fait. Mais c'est exactement ça. Je prends l'exemple, parce que j'aime beaucoup son travail en ce moment et son abnégation. Je suis sûr que c'est le prochain sur la liste. On a un collègue qui s'appelle Dalil Tari, qui démarre et qui était dans ta génération de cours.
Ouais.
Et qui charbonne les vidéos et des vidéos. Et il sponsorise et il y va, il se trompe et des fois il réussit et il précise son art et en fait il est psychiatre donc du coup il fait du stand-up en donnant plein d'anecdotes sur ce fait là et en fait ça y est, ça prend.
Oui, il a trouvé son créneau sur les réseaux sociaux. Il fait
le psychiatre. C'est un moyen aussi de tester ses blagues aussi.
Ouais, je pense qu'il y a ça. En fait, ça me permet d'écrire quand même. Et du coup, des fois, il y a des idées, des angles qui naissent de vidéos et qui sont grave transposables sur scène et inversement.
C'est une vraie mise en abîme parce qu'il y a beaucoup d'échecs au début. Ben, tu vas avoir une super idée dans ta tête, tu vas faire une vidéo, pac, elle va pas marcher, super, 1000 vues, génial. Pas de like, zéro. Tu vas refaire une deuxième, pac aussi. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu forces? Comment tu précises ta stratégie, ton personnage, ton gimmick? Il y a plein de trucs dans les vidéos, on pourrait même faire des masterclass maintenant avec Jules, parce que Dudley aussi l'a pris.
Salima Passion, une élève de la génération après moi qui, elle, a commencé par les réseaux sociaux. Ouais. Qui maîtrise très très bien les réseaux sociaux et qui est un peu la même chose elle aussi. Elle est prudente, elle est intelligente, elle sait que sur les réseaux ça marche et sur les réseaux elle commence à peine maintenant à parler du fait qu'elle fait du stand-up.
C'est vrai.
Parce qu'avant elle se sentait pas assez mûre pour dire si les gens viennent me voir et qu'en fait je bide, que c'est nul, en fait c'est la honte. Donc aujourd'hui c'est très important.
Et je trouve que c'est une super stratégie. C'est une super stratégie parce que du coup t'as quand même un public, t'as quand même cette communauté qui est déjà là pour toi. Elle va faire son premier spectacle 30 minutes avec un autre collègue et c'est sûr qu'elle va remplir. Après, son stand-up, elle aura aussi tout le temps de le performer. Il devient de plus en plus mûr parce qu'elle fait beaucoup de scènes à Paris, etc. À Lyon, elle bouge. Mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi une stratégie. Mais c'est un vrai travail.
C'est un travail à part entière qu'il ne faut pas négliger. C'est pas que du divertissement, en vrai. En tout cas, pour la personne qui le produit, c'est un vrai travail. On s'expose aussi.
Ouais.
Et on s'expose, bien sûr. Parce qu'il y a le bide sur scène, mais il y a aussi le bad buzz sur les réseaux sociaux, je pense. Ouais.
C'est un vrai fléau aussi.
C'est ça. Donc voilà quoi. Moi j'ai jamais fait de vidéo sur. Imagine le bide en vrai. Alors le bide en plus de sur
à la maison.
Toi, ça reste sur ton téléphone comme ça. Je rentre chez moi, j'oublie. Mais en tout cas, ouais, c'est un outil hyper important. Je conseille aux stand-upers de se lancer dans la vidéo et de forcer et de bider. C'est pas grave, on continue pour trouver le truc quoi.
Le Garage Comedy Club, une scène où le micro crée des ponts et rassemble toute une ville. et au-delà. Est-ce que vous voulez parler de l'actu aussi, peut-être, parce qu'il y a les 5 ans du Comedy Club qui a commencé hier et qui termine dans quelques jours.
C'est dimanche. Dimanche, on fait toute une semaine de festivités. Tu veux présenter, Vera?
Oui, alors une très belle programmation pour les 5 ans du garage. Aujourd'hui, on commence avec du blind test. Ce qu'on disait, on essaye de se diversifier un petit peu avec aussi une soirée plein phare. Donc, c'est notre soirée Comedy Club classique. Demain, les mécaniciennes, plateau 100% meuf. Jeudi, apérost. Mix entre apéro et le roast. ça vient des États-Unis, c'est le fait de se clasher. Donc là, on fait un clash entre stand-upers.
J'adore.
Avec le plaisir de clasher mon ami Dudley demain. Okay. J'espère terminer sa carrière. Non, je préchauffe un peu.
C'est vraiment du second, voire du troisième degré demain. Il faut être prêt.
Ouais, beaucoup de Lego à la maison et beaucoup d'autodérision. Vendredi, il y aura le Gong Show. Donc ça, c'est un comedy club où le public décide qui reste sur scène ou non, avec des petits drapeaux. S'il les agite, le gong retentit.
Et le stand-upper arrête son sketch. Mais il y a deux jurys, Quentin Friburger, le fondateur du garage, et Gabriel Giraud, qui seront là pour faire aussi des retours. Donc en fait, c'est une soirée où le public, il est très acteur. Donc ça, c'est cool.
C'est cool de leur donner justement la main, ce truc de s'écouter et tout. C'est cool aussi en tant que public d'avoir un pouvoir décisionnaire. On parlait de zapper tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Vendredi sera un peu pareil. Samedi, on a la Trash Comedy Night. Trash Comedy Night, c'est pas de sujet tabou, que des idées, des opinions un petit peu
divergentes. Ouais. Trash comedy, humour noir, on y va à fond. Il y a pas de limite. Si on est un peu fragile, il faut pas venir.
Non.
Mais en tout cas, là,
on aura la chance d'avoir Alexis Tramoni, qui est quand même une des références dans le stand-up trash en France. Très très trash, donc il sera avec nous
toujours dans le respect, toujours comme vous disiez.
Là, le trash, je pense qu'à la trash, le respect
sera sur le côté.
et dimanche, on teste un nouveau format un peu moins stand-up. Il y a bien évidemment les Bleus de Travail qui feront des premières scènes. Ça sera une spéciale première scène avec des nouveaux élèves. Et ensuite, on fera une veillée. C'est inspiré d'un concept YouTube où c'est des personnes qui viennent raconter des histoires. Alors, pas forcément marrantes, mais en tout cas, des anecdotes un peu extraordinaires, qu'elles soient effrayantes, originales. Voilà. Et tous les soirs. Enfin, non, pas tous les soirs. Mercredi, jeudi, vendredi, on aura de la musique. On a des artistes locaux qui viendront faire de la musique live. On aura Evana Musique et François Roger mercredi. On aura jeudi Damien et Romain, un duo entre rap, variété et pop. Et vendredi, nous aurons la Java Bleue.
Une très belle programmation, riche et dense.
Et en parlant de musique, justement, est-ce que vous pouvez nous donner une musique à mettre et ce qu'elle représente pour vous?
Oui, alors on va proposer, attention mon accent anglais, t'as coupé au couteau, désolé pour les auditeurs. C'est Free From Desire de Gala, un son un peu house des années 90. C'est par ce son qu'on a démarré tous nos comedy clubs pendant un an et demi.
Reste l'hymne.
Ça reste l'hymne du garage. Tout le monde la connaît, tout le monde chante, etc. C'est super. Donc c'est ce morceau qu'on a choisi. Ouais.
Et puis ça veut dire nourrir au désir finalement.
Effectivement,
on verra. Parce que c'est pas s'écouter. Écouter ses désirs.
J'ai envie de les écouter. Bonsoir.
Ouais. Oh. Bonsoir, ça va?
Il faut qu'on rentre dans le thème.
Et on est bavards.
Merci.
Merci à vous, c'était trop cool.
Merci beaucoup et bonne écoute.
Merci,
salut.
Bonne soirée.
Ciao l'équipe. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. One more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Freed from desire.